Donc, je pense qu'on m'entend bien. Oui, je voudrais évidemment d'abord te remercier très vivement, vous remercier tous les deux. Si je trouve mes lunettes, ça va aller mieux. Donc, je vous remercie l'un et l'autre de votre accueil à ce séminaire. Et je remercie Franz, évidemment, de la présentation très aimable qu'il a faite de mes travaux et de mes perspectives. De mon côté, évidemment, j'ai la plus vive admiration pour le grand savant que tu es, qu'on sentait déjà grandir en toi lorsque nous étions condisciples à la rue d'Ulm, il y a donc en effet 44 ans, quelque chose comme ça. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue, on avait des conversations intermittentes, mais je n'avais pas manqué très près de nos préoccupations ta présentation, ton édition de La Geste d'Ardeschir. Mais nous avons eu aussi des retrouvailles récentes, des discussions et des projets communs sur les sociétés de l'an 1000 qui s'intensifient. Alors, on peut se demander, malgré tes paroles aimables, ce que je fais ici, puisqu'en réalité, je suis tout à fait béotien. Je ne suis ni spécialiste de la littérature, ni orientaliste, mais simplement et avant tout un enseignant qui souhaite, dans les instances universitaires, auprès des étudiants d'abord, et parfois aussi dans des interventions à l'étranger, qui souhaite essayer de faire progresser les choses dans la direction que Marc Bloch indiquait lorsque, je dirais, au pire moment, mais qui était aussi pour lui un petit peu l'heure la plus belle par la force morale qu'elle l'obligeait à déployer, Marc Bloch a rédigé un projet de réforme de l'enseignement pour ce que serait la France libérée, qu'il ne verra pas, mais dans laquelle il avait pensé à l'enseignement. Et il dit qu'il justifie l'étude du passé reculé et des mondes lointains comme nécessaire auprès de tous les jeunes Français afin qu'ils en retirent, qu'on les aide à acquérir, je cite à peu près Marc Bloch, le sens et le respect des différences entre les hommes, et qu'en même temps, ils soient familiarisés avec, je cite Marc Bloch, l'expression est peut-être un petit peu moins courante aujourd'hui, mais j'avoue qu'elle me va assez bien aussi, la poésie des destinées humaines. Et il faut dire que quand on lit le Chanamet, même dans la traduction française, tout de même très belle, de Jules Moll, même si ça, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner en langue persane, malgré tout, c'est une poésie, c'est même peut-être une poétisation des destinées humaines. Donc, dans mon enseignement, notamment dans mon enseignement de master ou dans des interventions à l'étranger, j'ai souvent entrepris de faire comparaison et rapprochement et différence entre diverses élites guerrières médiévales. J'ai éprouvé le besoin, pour mieux caractériser ce qui se passait dans la France et les pays voisins, ce n'est pas une question de France stricto sensu, si je dis France, c'est parce que malgré tout, la culture et la littérature chevaleresque, au siècle où je les étudie, sont principalement français et françaises, oui. Mais bien sûr, c'est tout le noyau de l'Europe occidentale qui est concerné, hein, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, autant que la France, enfin, presque autant. Bon. J'ai trouvé que c'était important, utile de bien caractériser, naturellement, comment l'idéal héroïque ou l'idéal chevaleresque s'inscrivait et se comprenait dans le cadre d'un système social en relation avec d'autres institutions et d'autres valeurs de la même société, mais aussi quels éléments se trouvaient particulièrement développés ou absents, au contraire, par comparaison avec d'autres sociétés. Alors, il y a, outre Franz Grenet, parmi les spécialistes d'Asie centrale, quelqu'un que j'ai côtoyé à l'École pratique des hautes études, que j'ai lu et avec lequel j'ai discuté aussi, c'est Étienne de Lavessière, hein, dont les travaux, les commentaires de la la manière dont les marchands sogdiens, ou en tout cas de riches personnages, ont besoin d'images de guerriers héroïques ou chevaleresques, je ne sais pas. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. J'ai attiré l'attention à des étudiants d'Abu Dhabi sur cette littérature et sur cette culture de l'Asie centrale. Et quand j'ai fait un séminaire, enfin, du moins, des cours à Saint-Pétersbourg, j'ai envoyé tout le monde voir la stèle de Pendji Kert au musée de l'Ermitage. Et un certain nombre d'entre eux, en tout cas, y sont allés. En tout cas, j'essaye de me tenir au courant. Et il y a un programme d'IUF que je suis en train de remplir, d'essayer de remplir aujourd'hui et à chaque fois que je discute avec Franz. Franz, de son côté, fait des incursions tout à fait intéressantes et bénéfiques du côté de la France du XIe siècle. Vous ne savez peut-être pas, mais qu'on me permette de le dire, il a éclairé, il est en train, enfin l'article est sous presse, on verra comment la communauté scientifique le reçoit, mais à mon avis, enfin le pronostic est tout à fait optimiste, hein. Moi je suis absolument convaincu, tu as donc éclairé la scène la plus énigmatique de la broderie de Bayeux, celle où se trouve la mystérieuse Elfgiva. Donc, voilà ce qui peut me donner peut-être une petite place ici. Intensité des relations avec Franz Grenet, souci de pouvoir intégrer des échappées, des vues sur différentes parties du monde dans l'enseignement aux étudiants, et peut-être même plus loin, jusque dans l'enseignement secondaire, on peut rêver. Bon, et malgré tout aussi, véritable intérêt scientifique à essayer de mieux caractériser chacune des sociétés. Alors, je ne suis pas quand même tout à fait sans idée, sans arriver avec une certaine grille sur les dossiers que je parcours et que des spécialistes m'aide à commenter, hein, lorsque je parle du Japon, c'est parce que j'ai beaucoup dialogué aussi avec Pierre Souiri, Charlotte von Verschuur, Jean-Noël Robert plus récemment. Et donc, bon, c'est l'intérêt de ce programme. Donc, je ne suis pas tout à fait innocent parce que pour la France et l'Europe occidentale, malgré tout, comme Franz l'a rappelé, j'ai un modèle. J'ai proposé une forme d'analyse de ce qui s'est passé dans le Haut Moyen-Âge et ensuite au XIe siècle. C'est-à-dire que je me suis servi, en relation avec d'autres collègues, de ce que l'anthropologie nous apprend sur les sociétés de vengeance pour essayer de mieux analyser la société franque, à la fois ses chroniques et ses fictions. Je pense que même si un certain nombre de récits font partie de la fiction, ce n'est pas la fiction de n'importe quelle société. On peut toujours donner des développements imaginaires à des questions, à des tensions. Si on pense à les mettre dans l'imaginaire, si on les trouve dans son imaginaire, c'est tout de même qu'elles ont quelques racines dans la réalité. Je ne crois pas forcément à ce que les chroniques et les chansons de gestes franques disent des rapports entre les jeunes guerriers et les plus vieux, mais quand je vois que ça les préoccupe, je me dis que ça devait préoccuper aussi, bien entendu, que ça préoccupe la littérature, hein, je me dis que ça devait préoccuper aussi les gens dans le réel, dans la vie quotidienne. Alors, de quelle manière est-ce que la littérature, la fiction va dans le même sens ou va en contrepoint ? Là, il y a plusieurs fonctions possibles de la fiction, mais une fiction n'est pas quelque chose qui arrive comme ça dans une société, n'importe quand ni n'importe comment, c'est évident. Alors, dans l'histoire française et européenne, il y a quand même un moment sur lequel, depuis longtemps en fait, depuis le XVIIe siècle, et en tout cas très, très fortement au XIXe siècle, on a écrit des choses qui sont parfois un peu confuses, un peu contestable, et là je vais être obligé en deux minutes de trancher un peu dans le vif, il y a l'apparition de la chevalerie. Qu'est-ce qu'on appelle la chevalerie ? Ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est un peu tout et le contraire de tout, mais en tout cas c'est un idéal guerrier servant au prestige et donc à la reproduction de la classe dominante noble, en sachant que à l'exclusion de sa branche ecclésiastique, et encore, la classe dominante dans la France et l'Occident du XIe siècle symbolise son statut et, pour une part, entretient sa force et sa puissance à l'aide des armes. Mais l'importance symbolique des armes est tout de même un petit peu plus grande que leur importance pratique. Il y a là un décalage dans lequel l'analyse doit s'engouffrer un petit peu. Donc, au cours du XIe siècle, un passage, une mutation semble se produire d'un idéal héroïque, d'un idéal de guerre dure. On raconte des histoires, ce sont des chansons de gestes ou certaines chroniques latines, ou aussi même des épopées latines, des histoires de guerre extrêmement dures, vindicatives, avec des flots de sang qui coulent, à la gloire des ancêtres d'un lignage, d'un peuple. Les Francs se disent être et avoir été, d'une manière traditionnelle, un peuple farouche. Ils se glorifient même d'une étymologie un peu fausse. Donc c'est l'idéal farouche. Idéal de vengeance, idéal qui a évidemment effarouché les hommes du XIXe siècle, pour qui la vengeance, c'est le déchaînement de la violence et le contraire du droit. En réalité, bien sûr, ce que l'anthropologie nous suggère, c'est que la vengeance, en réalité, a ses limites, que dans les sociétés de vengeance et d'honneur, il y a toute une série de freins mis à la vengeance, que le système de la vengeance est conçu comme une annexe de la justice, et que, en réalité, il y a énormément de relations entre les adversaires que le système de vengeance caractérise comme tel, pousse à se reconnaître mutuellement comme tel. Autrement dit, dans les sociétés de vengeance, la relation d'adversité est tout à fait importante et tout à fait développée. Le seul fait de déclarer qu'on ne combat qu'un adversaire digne de soi, eh bien, c'est déjà le premier pas dans la relation d'adversité. De la sorte, lorsque paraît l'idéal chevaleresque dans la société du XIe, XIIe siècle, au lieu de penser, comme le faisait le XIXe siècle, que c'est par un retournement complet de la sauvagerie initiale des Francs, je pense au contraire que c'est par une mutation, une espèce de mutation darwinienne de la relation d'adversité que l'idéal chevaleresque se développe. L'idéal chevaleresque n'est pourtant pas du tout la même chose que l'idéal dur de lutte à mort. C'est un idéal d'accomplissement. Le guerrier prouve sa valeur dans des combats qui sont certes un peu dangereux. Il y a toujours des accidents, il peut toujours y avoir des bavures, même dans les conditions les plus chevaleresque, mais enfin, l'idéal, c'est de s'accomplir, c'est d'avoir un palmarès individuel, d'être reconnu de tous, d'en mettre plein la vue d'un certain nombre de spectateurs, éventuellement des spectatrices. Les femmes jouent un rôle évidemment important, mais il ne faut rien exagérer. Peut-être que le plus important, c'est que, à mon avis, hein, dans l'accomplissement de l'idéal chevaleresque, c'est que l'ennemi vaincu sert de témoin à la prouesse de son vainqueur, et il y a une relation entre le vainqueur et le vaincu, entre le vainqueur et son captif, et qui peut se développer. Autrement dit, il y a une sociabilité véritablement chevaleresque qui s'instaure entre les hommes. À l'époque où il regardait mon œuvre d'un œil bienveillant, mais cette époque malheureusement semble révolue, Patrick Boucheron commentait bien mon essai sur la chevalerie en disant que j'avais décrit une sociabilité chevaleresque, effectivement, je crois que c'est... Car il ne s'agit pas seulement d'un idéal qui va s'exprimer dans la littérature, puisqu'aux chansons de gestes succèdent des romans chevaleresques, aux romans de la Table ronde en particulier, dans la France du XIIe siècle, mais c'est bien dans la réalité que des occasions sont données. Bien sûr, ce n'est pas toute la réalité, mais c'est une partie de la réalité, c'est des fragments de réalité, que des occasions sont données, effectivement, aux jeunes chevaliers de France et d'Europe de remplir un petit peu ce programme et donc d'accomplir des prouesses, de se faire un palmarès. L'occasion fondamentale étant le tournoi, qui a d'abord été une partie, mais une partie mise à part des autres et codifiée de la guerre féodale, et qui ensuite est devenue un jeu, une institution en elle-même, organisée indépendamment des guerres féodales. Par conséquent, je suis parti à la recherche d'éléments de comparaison possible avec les autres élites guerrières, avec une sorte de grille. Je cherche à caractériser les différentes élites guerrières, mais comme ça, pour mes cours avant tout, par une série de... par une série de critères. Donc vous voyez, dans le Shahnameh, je cherche immédiatement s'il y a des tournois, si quelque chose en tient lieu, donc je suis immédiatement branché sur la chasse, hein, on va en reparler éventuellement. Je cherche comment on éduque le jeune noble et s'il y a quelque chose comme l'adoubement, mais l'adoubement, je n'ai jamais trouvé ailleurs qu'en Europe, j'y reviendrai. Je cherche le rôle des femmes. Alors j'ai vraiment une fiche généralité, hein, parce qu'il y a des choses inattendues qu'il faut savoir. Je cherche s'il y a des propositions de paix, si on fait des captifs, comment on les traite, quel développement la relation d'adversité peut connaître, s'il y a des élites rivales de celles de la chevalerie, en tout cas de celles des guerriers nobles, et enfin, si les relations sont bonnes ou comment se dose, sont dosées la coopération et l'antinomie entre les rois ou chefs et, disons, les baronnages, les grands, les aristocraties, entre le roi d'Iran ou du Touran et les Pélewanes que l'on voit dans le roman. De manière générale, les situations et les dossiers proches orientaux, parce que j'ai regardé aussi un petit peu tout de même le monde arabe et turc, me semblent donner finalement une image relativement plus proche de l'Europe que celle qui se dégage de l'examen des dossiers japonais. Si j'osais lancer un défi à mon voisin et ami, je dirais que l'Asie centrale mériterait presque d'être non seulement recentrée, mais presque légèrement excentrée en direction de l'Ouest. C'est-à-dire que je ne trouve rien de plus exotique que la chevalerie japonaise. Et finalement, je trouve dans le Livre des Rois un ou deux thèmes, j'ai essayé d'avoir le temps d'y revenir, qui sont adoptés probablement par contact avec d'autres partenaires, par les chevaliers croisés ou ceux qui ont parcouru le Proche-Orient. Alors, à première vue, en effet, ce qu'il y a, je vais essayer de ne pas être trop long, oui, de commencer par là, ce qu'il y a de plus frappant pour moi, c'est que le Shahnameh, j'ai bien conscience, tout de même ayant lu les commentaires, que c'est une œuvre qui emporte beaucoup de sources diverses, des épisodes un peu disjoints les uns des autres. Les commentaires insistent bien sur son côté disparate. À le lire comme ça, le côté disparate a quand même des limites. Hein. Dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses qui se tiennent et d'un bout à l'autre. Alors vous me direz si j'ai tort ou pas, mais je n'irai peut-être pas jusqu'aux extrêmes de l'impression de disparate. Ça peut peut-être se discuter. Donc, parce que les notions de justice et de vengeance, bien associées, sont évidemment tout le temps présentes, qu'il s'agisse de la partie héroïque, hein, je m'en tiens aux classifications de Moll, Massé et des autres, ou qu'il s'agisse de la partie dite historique. Il y a certainement des problèmes d'interpolation que vous connaissez et maîtrisez. Il y a certainement des problèmes de source. Et en ayant lu dans la traduction de Jules Moll, mais en consultant le florilège de Gilbert Lazare chaque fois qu'il y avait lieu, j'ai dû passer à côté d'un certain nombre de choses. Mais vous me le direz. Et donc, pour ne pas abuser de votre patience, je voudrais donc vous soumettre mes impressions, ma grille d'analyse. C'est le cours que je ferai aux étudiants de Paris 4, que je ferai à IES, si vous ne rajoutiez rien. Donc, dans un premier temps, je suis frappé du fait qu'on a affaire à une société de vengeance, puis je soulignerai quelques différences avec la France, et ensuite, j'attirerai l'attention sur un ou deux endroits qui m'ont au contraire paru rendre un son un petit peu plus familier. Dans une société de vengeance, il y en a beaucoup, vengeance d'honneur, vengeance de lignage ou vengeance de peuple. Dans nos chansons de gestes, c'est souvent des relations d'adversité entre lignages, mais ça peut être aussi entre peuples. Chaque fois qu'on affronte les Sarrasins, qui ne sont jamais conçus comme une religion, mais toujours comme un peuple. Alors, la focalisation de l'attention se porte sur le guerrier d'élite, partout, hein, même dans les épopées japonaises, bien sûr, qui s'oppose, encore qu'au Japon, il y a une spécificité, c'est que les plus hauts dirigeants, l'empereur, n'ont en rien d'allure guerrière, et que la chevalerie japonaise, entre guillemets, reste surplombée par une noblesse qui a plus de prestige qu'elle. Du côté de l'Iran, du Proche-Orient et de l'Europe, au contraire, les dirigeants ont les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs de puissance, de symbolique ou réelle, et d'une certaine manière, les rois sont les modèles de l'aristocratie guerrière, et l'aristocratie guerrière modèle un petit peu les rois. Il y a cette relation d'échange, donc, qui n'existe pas plus à l'Est. Bien entendu, il s'agit de se distinguer d'autres catégories. Être un homme noble, on se distingue du non-noble. Le Livre des Rois ne me dit pas grand-chose à propos des non-nobles, mais il y a quand même quelques aperçus ici et là. Hein. De temps en temps, on voit des fantassins, il y a évidemment des esclaves. Il y a des marchands tout à fait à la fin, en tout cas des guerriers qui se déguisent en marchands, mais une présence assez discrète. Je suis presque surpris de voir que les guerriers iraniens ne passent pas leur temps à se moquer de ceux qui sont en dessous d'eux, alors qu'en France, on est plus sarcastique à propos des serfs. Mais on en parle davantage. Bien entendu, les femmes ont un statut inférieur dans les deux cas, mais en même temps un véritable rôle. Enfin, évidemment, en Occident, nous aurions un problème un petit peu plus aigu de relation avec les prêtres ou les guerriers, avec les prêtres, des guerriers avec les prêtres ou les ecclésiastiques. Et là, j'ai bien remarqué qu'il y a des mobèdes, mais je vois que quand même un certain des flottements dans la religion des Iraniens du Shahnameh, et ça ne permet pas l'ouverture d'une véritable confrontation entre guerriers. On ne va pas dire que les mobèdes ont les couilles molles dans le Shahnameh, alors que ça arrive dans les chansons de gestes. Voilà, on sent qu'il y a une petite tension là qui n'est pas représentée de votre côté. Le combat à cheval, bien sûr, et alors au contraire, la chevalerie iranienne. On chasse aussi en Occident, mais la chasse, la relation avec le monde animal, ça saute aux yeux à une bien plus grande place. Je ne sais pas s'il faut dire que le guerrier est totémisé, mais je suis évidemment frappé par le fait qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont comme des lions, comme des crocodiles, comme des éléphants. Voilà, il y a une assimilation avec le fauve qui manque un peu, sauf que les croisés revenus de Terre Sainte, de Syrie et de Palestine, ont quand même un peu pris l'habitude, qu'ils n'avaient pas jusque-là, de dire, voilà, on a tué des lions, on est nous-mêmes un peu comme des lions, mais initialement, évidemment, ils n'avaient pas ça, on n'avait pas ça en France. Cette élite recherche volontiers le combat singulier, aime à choisir son adversaire. Au Japon aussi, d'ailleurs. On se tue, mais on se tue entre gens de bonne compagnie. Mais évidemment, en Iran, comme au Proche-Orient, comme en France, c'est la vengeance d'honneur et une vengeance du sang, une vengeance qui, nous dit-on, peut toujours se réveiller, mais qui peut toujours aussi être différée, être abandonnée au profit d'une paix. C'est la vengeance qui alimente le récit, l'histoire de la société et du royaume. Des histoires d'hécatombes, des histoires de morts de guerriers jeunes, souvent de sang royal. Oui, une autre spécificité, c'est que les chevaliers iraniens ne paraissent pas, je dis chevaliers entre guillemets, ne paraissent pas trop préoccupés par la montée d'élites rivales. En tout cas, on ne trouve pas beaucoup ce thème dans le Shahnameh, à moins que ça m'ait échappé. Donc, en fait, ce sont toujours des garçons, évidemment, du plus haut niveau, le plus souvent de sang royal, et dont nous devons assister avec émotion et avec du suspense, enfin, un vrai faux suspense, parce qu'on se doute bien que pour Siaouche, Sorab et quelques autres, ça va mal finir. On va assister à leur mort jeune, mort évidemment enviable puisqu'elle a montré leur courage, mort qui fait honneur à leur origine, à leur peuple, à leur famille, mais la notion familiale ici est plus discrète que dans mes sources occidentales, même si elle est bien présente, hein, j'ai bien relevé aussi qu'on n'était nulle part mieux qu'au milieu de ses parents, et en tout cas plus en confiance. Donc, les marques d'estime par l'adversaire font qu'on le choisit, lorsque, quand même, ça arrive, hein, j'ai sur ma fiche Sparing Enemies, c'est pas épargner l'adversaire, j'ai pu quand même remplir une page entière du moment où on propose d'épargner l'adversaire, c'est souvent parce qu'on a pour lui une estime toute particulière. Khosrau ne veut pas la mort de Piran parce que c'est quelqu'un de bien du côté touranien. Il y a quand même plusieurs exemples comme cela. Donc, lorsqu'on veut ménager l'adversaire, c'est parce qu'on a de lui une vive estime. Il y a des adversaires qui reconnaissent leur valeur mutuelle, mais et c'est un important ressort dramatique, bien sûr, qu'il s'agisse notamment dans les différents duels à mort de Rustem, hein, on l'a vu avec Sohrab ou Isfendiar, eh ben, la paix, la réconciliation ne se produit pas. On peut même se demander si son échec ne vient pas renforcer l'idéal de dureté. Mais la présence même de ces tentatives de paix prouve bien que dans cette société, il existe aussi, et j'imagine pas seulement dans la fiction, des tendances à la paix. En France, on raconte des chansons de gestes et des histoires de lutte à mort, mais alors au XIe siècle, c'est devenu une véritable façade. Poursuivre son ennemi jusqu'à la mort, c'est ce qu'on ne fait pas, ou pratiquement jamais. C'est-à-dire que les guerriers partent à la guerre en chantant la dureté de Roland et ou autres ancêtres, mais ça les dispense de faire comme les héros des chansons de gestes. C'est-à-dire qu'évidemment, ils se contentent de faire des captifs, de traiter avec eux, d'épouser leur sœur ou de donner leur sœur en mariage. Bon, alors, d'où la question, tout de même, à la fin de la partie historique, il y a un épisode, c'est quand Bahram Djoubinet accepte finalement d'épargner Parmoudet, son ennemi, et lui fait donner un acte de protection par le roi d'Iran. C'est bien que ça doit se faire dans la réalité de temps en temps. Et est-ce que ça se termine toujours aussi mal? Parce qu'après, il y a évidemment des frictions et des vexations entre Bahram Djoubinet et son captif, qui le prend de haut avec lui, etc. Est-ce que ça se passe toujours aussi mal dans la réalité? C'est ce que vous savez peut-être mieux que moi. C'est ce sur quoi vous devez avoir des indices. En tout cas, j'ai étudié récemment, et je vais publier un livre sur Bouvines, pour la bataille de Bouvines, ça je vous le garantis, il n'y a que très peu de morts nobles et ça n'a absolument pas les caractères d'une lutte à mort. Il y a peut-être 5 morts nobles à Bouvines en 1214. À Brémule, en août 1119, il y en a eu 3 hein, dans une bataille générale d'une société qui se nourrit de chansons de gestes et qui a un véritable idéal de lutte à mort. Ça n'a pas empêché Guillaume le Breton, chapelain de Philippe Auguste, d'écrire une épopée latine où on nous raconte que Bouvines, ça a été une lutte à mort épouvantable, que voilà, les épées étaient rouges de sang, etc. Il n'arrive quand même pas à dire qui est mort. Et le problème, c'est qu'il dit qu'il y avait un flot de sang, mais qu'on n'a aucun nom de mort. En tout cas, les historiens de la guerre nationale du 19e siècle, ivres de nationalisme, ont quand même réussi à écrire qu'il y avait 100 000 morts du côté adverse. Enfin, ils se sont fait complètement intoxiquer, enfin, ils se sont auto-intoxiqués sur la Philippide de Guillaume le Breton. C'est le mérite de Georges Duby, mais après Voltaire et Michelet, d'avoir dédramatisé Bouvines. Alors, on peut même aller encore, je crois, plus loin sur un certain nombre de pistes, mais bien entendu, la direction, la perspective ouverte par Georges Duby était la bonne. Autrement dit, dans ces sociétés de vengeance, il y a la possibilité, donc c'est une idée que je vous apporte, de mesurer parfois un décalage véritablement important entre la façade vindicative et belliqueuse et les réalités sociales. À la limite même, plus on est belliqueux en façade, plus en dessous, la manœuvre d'économie du sang noble et de développement de la relation d'amitié avec l'ennemi apparent devient possible. Hein, plus il y aurait presque, je dirais pas jusque-là, mais on pourrait presque se demander si ce n'est pas parfois un peu comme ça que ça fonctionne. Si on s'en tient à l'idéal exprimé, à l'idéal de façade. On observe, à mon avis, dans ces sociétés de vengeance, comme celle dépeinte dans le livre des rois iraniens, dans le Shahnameh, ce que j'aime à appeler un tropisme chevaleresque. C'est-à-dire que sont déjà en place un certain nombre de données qui peuvent permettre l'élaboration d'une chevalerie classique. Mais tropisme, ça veut dire qu'une plante, un organisme, regarde, est tenté d'aller dans certaines directions, mais n'y va pas encore. Et il faudra pour ça, ce que j'appelle pour la France, une mutation chevaleresque, et je pense qu'elle ne se produit qu'en France. Donc, tropisme chevaleresque, c'est dès lors qu'une élite guerrière est intéressée davantage par sa relation avec son adversaire de même rang que par sa solidarité avec ceux qui se battent du même côté qu'elle, mais qui n'ont pas son statut, qui sont de rang inférieur. Les chevaliers, et même avant eux les guerriers du haut Moyen-Âge, s'intéressent plus à leurs adversaires nobles qu'à leurs compatriotes non nobles. Alors, forcément, à partir de là, le risque existe que dans une société animée d'un tropisme chevaleresque, le sens de l'intérêt collectif, l'engagement pour assurer la victoire de son camp, soit un petit peu érodé. Hein. Si on s'intéresse beaucoup à l'adversaire noble et si on n'est plus très solidaire du combattant non noble, qu'est-ce qu'on fait? Il reste la fidélité au roi, hein, bien sûr. Alors heureusement, elle est là. En Iran, elle va tout bloquer, c'est évident. On le voit, me semble-t-il. Mais, et naturellement, au Japon, bien plus encore. Mais si ça craque avec le roi, s'il n'y a pas assez d'allégeance, à partir de là, les guerriers nobles ne vont plus s'intéresser tant que ça aux résultats pour leur propre peuple. C'est pas très sensible ça dans l'épopée iranienne, mais au Japon, le thème de la défaite glorieuse est également assez développé. Les Japonais ont perdu, mais ils ont donné leurs principaux guerriers ont donné de tels exemples de courage et d'héroïsme que finalement, on voit bien que rien ne vaut le Japon. Voilà. Ça, on a ce genre de développement qui représente un tropisme chevaleresque sans pour autant qu'on sorte de l'idéal de lutte à mort inscrit dans un cadre vindicatif. Et donc, quand je lis chez Moll ou chez Massé qu'il n'y a pas de véritable chevalerie au sens occidental en Iran, que ça ne peut pas être le pays d'origine, ben, c'est vrai au sens strict du terme, puisqu'on ne trouve pas une affirmation absolument expresse d'un idéal d'accomplissement. Donc, plusieurs différences avec les épopées et les chroniques françaises et européennes vont pouvoir apparaître. Bien sûr, ici, le roi n'est pas absolument un despote. Il y a peu de grands guerriers dans le livre des rois qui se font vraiment durement punir par la royauté. Si on compare avec l'épopée japonaise, ça apparaît très bien. Bien sûr, les rois sont mis à l'épreuve, les fils de rois, il faut qu'ils montrent un certain nombre de qualités, mais enfin, comme dans beaucoup de sociétés, on s'arrange pour dire que le plus grand mérite vient aussi à celui qui est de la plus noble naissance. Hein. On pose un instant l'hypothèse d'un décalage entre naissance et mérite, et puis on abandonne rapidement cette hypothèse en faisant subir des épreuves tout à fait concluantes aux jeunes nobles. Bon, donc, bien sûr, les rois et les grands guerriers partagent un peu les mêmes attributions, et les rois donc sont obligés de les ménager. Je suis très frappé, je trouve très intéressant l'épisode, c'est dans Moll, c'est au tome 2, page 571 et suivante, où le roi propose aux différents grands de son armée, lorsqu'ils partent en campagne, que chacun ait une mission particulière et qu'il y ait une rétribution. Pour faire telle chose, pour m'apporter la tête d'un tel, je vous donnerai tel trésor, etc. Ça, c'est un problème qui m'intéresse beaucoup dans les comparaisons entre chevalerie. Quelle rétribution donnent les rois ou les seigneurs? Et là, il y a un mélange de force royale et d'autonomie noble qui me paraît très intéressant. Donc ça, c'est un des passages sur lesquels j'ai le plus flashé. Un peu plus loin, bien sûr, mais c'est peut-être pas tout à fait le même morceau, on va avoir des hauts faits récompensés par des investitures. Ça, je dirais, c'est la grammaire fondamentale de société féodale. Quand on s'est illustré à la guerre, on mérite d'avoir une sorte de seigneurie, d'avoir des terres et des droits tout à fait étendus. Et la propriété donc justifiée par l'exploit guerrier. La propriété ou telle ou telle délégation de pouvoir, ce n'est pas le lieu d'en discuter longuement. Mais l'allégeance au roi, pour limiter qu'elle soit à certains égards, hein, je vois bien qu'on ménage en particulier dans ce passage une certaine place à l'idée de consentement noble, à la bonne volonté des nobles. Les rois les traitent avec honneur. Mais enfin, l'hommage, entre guillemets, tel qu'il est décrit en Iran, c'est tout de même de se prosterner à terre. Et on ne voit pas, même quand il y a de graves problèmes, des frictions entre Rustem et les rois, il n'y a pas de véritable baron rebelle, il n'y a pas de guerre lignagère par lesquelles la royauté soit complètement dépassée. Et donc il est évident que l'autorité royale reste ici tout de même relativement plus fort, ce qui évidemment fait écran, me semble-t-il, à l'émergence de destinées et de sociabilités chevaleresques plus indépendantes de la royauté, comme c'est le cas en France, et qui pourraient devenir ludiques. Et ce qui laisse également peu de place aux guerres du dedans, qui sont pourtant toujours la meilleure occasion de faire intervenir des développements de mutations chevaleresques, et en particulier l'apparition de tournois qui viennent remplacer les batailles fratricides que l'on éviterait donc en faisant des tournois. Ce qui, d'autre part, dans ce système, me semble évidemment s'accorder à l'absence de vrais tournois, c'est l'importance de la chasse qui me frappe beaucoup. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que Franz, dans la geste d'Ardéchir, a mis une note sur les liens entre tournois et polo, mais alors je n'ai pas très bien vu le polo dans le Livre des Rois, je pourrais peut-être y revenir. Mais en tout cas, évidemment, rôle important de la chasse. Quand Bijen, je suppose qu'on dit Bijen.
Bijen,
d'accord. Met les têtes de sangliers qu'il a tuées à son cheval, il les attache comme des trophées, là, évidemment. Il y en a un autre, je crois que c'est Baramgour, qui tue la pauvre jeune femme, qui est très amoureuse de lui, mais qui lui demande d'épargner des gazelles. Tout ça, c'est évidemment, évidemment un développement spécifique. Bien sûr, il y a des jeux. Et régulièrement, des personnages font la preuve de leur force, des espèces de joutes. C'est le cas, me semble-t-il, de Sam ou Zal au début. C'est le cas de Siaouche aussi. Et d'ailleurs, Siaouche a le tact à un moment de demander à ses Iraniens de ne pas l'emporter sur les Turcs d'Afrasiab. On perçoit bien la dimension tout de même de réconciliation qui est dans l'organisation d'un jeu. Mais ça ne me paraît pas déboucher, donner lieu à toutes les fonctions sociales et du tournoi et permettre l'extension, j'allais dire l'extension du domaine de la lutte, mais enfin la polarisation de la sociabilité chevaleresque sur ces joutes. Les femmes dans le Livre des Rois jouent évidemment un grand rôle. L'histoire des amours de Zal et de Roudabé est tout à fait délicieuse, d'autres aussi. Mais ça, c'est un élément de différence anthropologique. Le système de parenté n'étant pas un système indifférencié comme en Occident, il ne peut pas donner à la femme toute la place. Il ne peut pas y avoir ici pour la femme toute la place qu'elle a dans la société féodale française. Elle n'a pas la même capacité à transmettre l'héritage. Et le fait qu'on puisse imaginer de se venger sur son grand-père maternel, qui me paraît prouver ici en effet que les parentés paternelles et maternelles n'ont pas du tout la même signification, ça, ce serait impensable dans notre domaine de parenté indifférenciée. De ce fait, ce qui me frappe dans le Livre des Rois, c'est que la femme ne joue pas le rôle d'instigatrice, soit à la vengeance, soit à l'exploit chevaleresque, qu'elle a dans l'idéal occidental et sans doute aussi dans la réalité, puisqu'on gagne des femmes par l'accomplissement d'exploits ou de missions. Elle aide le chevalier en difficulté, bien sûr, Maniget aide Bijen, mais elle a craqué tout de suite pour lui. C'est ça qui est surprenant. Elle l'aime dès la première ligne de son apparition. Alors, c'est un peu ennuyeux parce que ça l'empêche de lui faire faire. Là, je parle en français qui chercherait à avoir l'équivalent d'hypopéronète. Il n'a même pas besoin d'aller désarçonner 3 ou 4 adversaires pour mériter l'amour de Maniget. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, effectivement, c'est un système dans lequel, en effet, la fonction d'instigation n'est pas accomplie. Alors, il n'empêche que, je passe vite, mais j'ai fait des fiches sur ce problème de femme, il n'empêche que, rassurez-vous, même en France et en Europe, ce rôle dévolu à la femme a pour elle un certain nombre d'inconvénients, et que dans Erec et Énide, c'est comme dans l'histoire de Bijen et Maniget, il y a 10 fois plus de mots sur la beauté du garçon que sur celle de la fille. Simplement, c'est pas sorti, ça ne sort pas tout à fait de la même manière. Pourtant, justement, dans le livre des rois, à plusieurs reprises, je me suis dit, ah, ça y est, ça a été mon suspense. C'est une lecture, certes, intéressante et délicieuse que le livre des rois dans la traduction de Jules Moll. Mais enfin, par instant, il y a quand même un tout petit peu de répétition dans les histoires de guerre entre Iran et Touran, il faut bien le reconnaître. Donc, à certains moments, je me dis, ah, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui ressemble à la chevalerie? Alors, j'ai quand même éprouvé ce sentiment à 4 ou 5 reprises. D'abord, quand j'ai vu au livre 2, page 477, et ça revient une deuxième fois, des gens où il fallait se ceindre de l'épée ou d'une arme pour venger son père. Ça m'a vaguement rappelé la fonction de l'adoubement qui inaugure la vengeance. Mais donc en France, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et par ailleurs, il n'y a rien qui ressemble aux autres fonctions de l'adoubement ici. Parce que l'adoubement est quelque chose de très spécifique et très peu naturel en réalité quand on y réfléchit. Je me suis évidemment passionné pour Siavosh. C'est une aventure assez classique, évidemment. Le coup de la femme de Poutifar, ensuite la relation d'adversité qui se transforme en amitié avec Afrasiab, mais enfin il y a des difficultés, ou avec la famille de Piltzempiran. Bon, mais enfin, il y a des difficultés, il y a des jaloux. Bon, il y a les jeux organisés dont je vous parlais tout à l'heure. Ça ne va quand même pas très loin par rapport à ce à quoi on pourrait assister dans des dossiers européens. Ce qui m'a le plus intéressé, je vous l'avoue, c'est le récit de Lord Ali de Siavosh. Alors là, je vous amène, quand vous voulez, des récits d'Ordali où on voit les choses se passer de la même manière. C'est-à-dire que le récit de Firdausi me paraît prêté à la même interprétation que celle des Ordali, donc rôle important du public, du consentement, des assistants, etc., et les fonctions de l'Ordali. Bon, Bahramgur, Bahramjoubinet, j'ai des petites choses malgré tout, mais c'est dans deux autres cas qu'à mon avis on s'approche un peu davantage de ce que j'attendrais de la chevalerie. D'abord Firoud, c'est pas par hasard, puisqu'on n'est pas dans la guerre contre un étranger, contre une puissance étrangère, mais au fond, on est presque dans une guerre interne à l'Iran. Firoud est iranien, c'est un fils de roi d'Iran, dont on attend qu'il rejoigne l'armée, puis voilà, il y a des méprises, des intrigues d'un type extrêmement méchant, je ne me rappelle plus de son nom dans l'instant. Et donc finalement, on est dans une situation où effectivement il est dans un château et on voudrait pouvoir éviter la bataille et la mort. Il hésite à entrer dans la lutte à mort. Il est question à ce moment-là de deux choses. Ça n'apparaît que là, ça m'éveille le truc. D'une part, abattre le cheval plutôt que le chevalier, ce qui est un coup très important dans la France du XIIe siècle. Ça se fait entre gens de bonne compagnie d'abattre le cheval, mais après ça, généralement, on épargne le chevalier. Et puis le fait que Firoud dise que ça le motive, que les belles esclaves, il y a écrit esclaves, voient le spectacle de ses prouesses en montant sur les remparts du château. Et ça, évidemment, c'est aussi un must de la chevalerie occidentale. Qu'elles existent ou pas, on se vante de s'être battu devant les filles. Le récit de Robert de Clary de la prise de Constantinople, les belles byzantines, grecques, étaient là en train d'admirer les chevaliers français. Toutes les autres sources disent que c'est faux. Récit de la prise de Jérusalem, les belles palestiniennes craquaient pour les chevaliers croisés, qu'elles trouvaient magnifiques, etc. Donc ça, c'est vraiment... Mais finalement, les belles filles en question, elles vont se suicider à l'Indienne au moment de la défaite de Firoud. Et là, on sort complètement, évidemment, du cadre dont j'aurais plutôt l'habitude. Mais évidemment, et vous l'aurez peut-être deviné, mon coup de cœur pour chercher quelque chose qui ressemble à la mutation chevaleresque, c'est évidemment Bigin, puisqu'on dit Bigin, parce que c'est quelqu'un qui survit à ses aventures, c'est quelqu'un dont on ne voit pas la mort, et par conséquent, ça permet de faire apparaître un certain nombre de tendances où on se demande, je me demande si on ne va pas passer du tropisme chevaleresque à une véritable mutation chevaleresque. Il a une manière de parler de la quête de gloire et de renom en écartant comme ça la mort sacrificielle, qu'il l'apparente à toute une série de ces jeunes dont Jean Duby parlait très bien et dont l'étude est, à mon avis, importante pour la mutation chevaleresque. Il a, avec son papa, qui s'appelle Give, si je me rappelle bien, une relation ambivalente, très classique entre les fils et les pères, au demeurant, que nous connaissons tous peu ou prou. Mais tantôt, il moque le fait que son papa ne veut pas assez se battre, tantôt, au contraire, son père qui le critique de sa témérité, son père est quand même fier de lui, etc. Bon. Bref, il y a là une tension père-fils qui est assez développée, qui finalement me paraît beaucoup plus intéressante que l'histoire avec Maniget. Hein. C'est plus caractéristique, en tout cas, dans ma grille de lecture des problèmes de chevalerie. Et puis, il y a un adversaire qui s'appelle Ouman, qui tout de même est tué, mais ensuite Bigin se déguise. Et puis, il a épargné le... Donc, il prend lui-même les armes et le drapeau de celui qu'il a tué. Donc, il y a un épisode de déguisement qui fait très chevaleresque aussi. Et puis, malgré tout, il gracie du monde. Il y a dans tout l'épisode, me semble-t-il, une part relativement forte de miséricorde, enfin, une tendance relativement forte à épargner l'ennemi. Mais enfin, le cas de Bigin reste isolé, et je ne sais pas si ça vous suggérera des choses. Hein. Et donc, le diagnostic à première vue, mais qui serait possible de réviser, que vous allez peut-être m'obliger à réviser ou à argumenter autrement, c'est qu'en effet, il y a bien un tropisme chevaleresque, mais pas la mutation chevaleresque que j'ai trouvée en France. Ça n'a évidemment aucune importance. D'une certaine façon. Mon but n'est absolument pas de vous dire qu'il s'est passé quelque chose de plus en France, ni même de prendre la France comme référence de l'histoire du monde. Simplement, il m'a paru qu'il était très important, très, très utile, très, très suggestif de pouvoir caractériser une société non seulement par ce qui s'y observe, mais aussi par ce qui ne s'y observe pas, par ce qui ne s'y trouve pas. Et donc, je trouve intéressant qu'au Japon, il n'y ait pas de vengeance, d'idéologie de la vengeance, et qu'il y ait le suicide. Je trouve intéressant qu'en France, au contraire, il y ait cette mutation chevaleresque. Et je crois que la chevalerie qui se reflète dans le Livre des Rois a certainement aussi une série de caractéristiques propres, que vous êtes mieux placé que moi pour bien distinguer. Moi, je suis très sensible à l'originalité des rapports avec le roi et des rétributions proposées. Je suis sensible, évidemment, à la présence de la chasse et à bien d'autres choses encore, mais j'en ai suffisamment dit. Il va être temps, je pense, il va être temps de passer à autre chose.